Recherche qui avance, on va le voir tout de suite. Je vais demander au professeur Pierre Krolak-Salmon de me rejoindre, car il y a cette année, et sans doute pour la première fois réellement, des vraies pistes d'espoir. La parole est à vous.
Merci beaucoup,
alors,
madame.
Je précise quand même, vous êtes neurologue et gériatre, vous êtes professeur à la faculté de médecine de Lyon, vous êtes directeur de l'Institut du vieillissement du Centre Mémoire Ressources Recherche de Lyon, et je continue, vous êtes président de la Fédération des Centres Mémoire. Donc nous avons ici une personne extrêmement bien placée pour faire un point sur la recherche aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci à tous d'être ici aujourd'hui, cet après-midi. Merci à la Fondation pour la recherche Alzheimer, pour son dynamisme, pour l'organisation de cette journée, et puis de m'inviter à traiter d'un sujet particulièrement intéressant, puisque pour nous, je pense qu'on peut le dire, il s'agit d'un événement majeur dans l'histoire de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on, pour la première fois, on va parler d'un médicament qui a montré enfin une efficacité en phase 3, c'est-à-dire une phase de la recherche médicale très avancée dans le développement d'un médicament. C'est la première fois depuis qu'Alois Alzheimer a décrit cette maladie, qu'on va aussi loin dans la démonstration d'une efficacité d'un traitement qui touche directement aux lésions intimes cérébrales de la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si je passe les diapositives ou si je vous demande de les passer, on va avancer.
Ah, c'est nous qui les passons, en direct. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, pardonnez-moi cette planche un petit peu technique, mais ne vous effrayez pas. Il s'agit simplement de vous démontrer que cette maladie, elle s'appuie sur des hypothèses, et en particulier une hypothèse principale, qui est celle de ce qu'on appelle la cascade amyloïde. L'amyloïde, la protéine amyloïde, c'est une protéine qu'on a tous dans le cerveau, c'est une protéine physiologique qui sert à quelque chose, mais qui, dans la maladie d'Alzheimer, va s'accumuler du fait de déséquilibres métaboliques, de déséquilibres de certaines enzymes. On ne connaît pas vraiment toutes les causes de cette accumulation, mais en tout cas, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'elle est accumulée, qu'elle est en cause dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et puis, il y a une deuxième protéine qui est très importante à connaître, c'est la protéine Tau, T-A-U, qui va aussi s'accumuler, qui va aussi présenter des perturbations dans son métabolisme. Et ces deux protéines vont expliquer une bonne partie des pertes neuronales, des pertes de neurones, notamment dans les régions de la mémoire, mais pas seulement, et vont représenter des cibles de traitement très, très sélectifs qui vont pouvoir peut-être nous débarrasser de ces fameuses protéines, en tout cas de leurs excès, et permettre de stabiliser, voire de faire régresser certains symptômes. Alors, on a eu, vous voyez, des petites croix rouges qui apparaissent parce qu'on a essayé de stimuler certaines enzymes, les alpha-sécrétases, on a essayé de stopper, d'inhiber, de freiner d'autres enzymes. Ça n'a pas marché pour différentes raisons que je ne pourrais pas vous exposer maintenant, mais en tout cas, les pistes thérapeutiques sont explorées les unes après les autres. Il y a des raisons de certains échecs qu'on peut avancer quand même, c'est-à-dire de s'adresser trop tardivement à la maladie est certainement une des raisons de nos échecs. Il faut vraiment repérer les patients le plus tôt possible, dès les premiers symptômes, dans certaines formes génétiques avant les symptômes, quand on connaît la mutation, c'est très rare. En tout cas, il faut vraiment repérer les malades le plus tôt possible avant des dégâts cérébraux, neuronaux, qui soient trop importants. Donc ça, c'est un premier message que je voudrais vous délivrer. Ça, c'est une autre protéine qu'on a essayé d'inhiber. Malheureusement, cette bêta-sécrétase est abandonnée. Enfin, cet inhibiteur de la bêta-sécrétase est abandonné. Je vous propose de vous concentrer sur ce qui est marqué là, AC monoclonaux, ça veut dire anticorps monoclonaux. Comme dans certains cancers, comme dans certaines maladies inflammatoires, on va utiliser des anticorps qui vont cibler, qui vont vraiment se fixer sur ces protéines quand elles sont anormales et débarrasser le cerveau de ces protéines anormales. Donc c'est vraiment la voie thérapeutique la mieux explorée actuellement, ces fameux anticorps monoclonaux qu'on connaît pour d'autres maladies. Et puis, il y a d'autres pistes thérapeutiques, bien sûr, des pistes qui vont lutter contre cette protéine Tau, en tout cas son accumulation, Et puis, il y a encore d'autres pistes dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Alors, ne prenez pas peur, mais chaque point de ce disque représente une étude, un essai thérapeutique. C'est simplement, ça c'était en 2019, simplement pour vous démontrer le dynamisme incroyable de la recherche thérapeutique actuellement. Je pense qu'on est dans une phase totalement inédite de l'histoire de la recherche mondiale sur Alzheimer. Il y a la recherche sur le diagnostic, il y a la recherche sur les troubles du comportement, mais la recherche thérapeutique, vraiment ciblant les lésions, n'a jamais été aussi forte et aussi dynamique. Alors, ces anticorps monoclonaux, donc qui ciblent l'amyloïde, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Certains ont été déjà étudiés. Malheureusement, les études ont été négatives pour différentes raisons. C'est peut-être pas le bon anticorps. On s'est peut-être adressé à la maladie trop tardivement. Il y a d'autres raisons peut-être, des diagnostics différentiels qui sont mal gérés parfois. Mais aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle génération d'anticorps, qui est cet aducanumab que vous voyez à gauche plutôt, qui est un petit anticorps qui va se fixer sur cette fameuse protéine et qui va nous aider à délivrer le cerveau de cette protéine. Alors, deux études mondiales. Vous voyez, beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup de centres mémoire ont participé en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, au Japon, je crois, et des milliers de patients ont été inclus, surtout au stade très précoce de la maladie. On insiste vraiment là-dessus. Alors, je vais vous passer les détails, on a des graphiques très, très compliqués, etc., mais l'objectif principal de cette étude, de ces études, c'était de montrer qu'en ciblant la protéine dans le cerveau, on allait obtenir des résultats cognitifs, centré sur la mémoire principalement, et même des résultats en termes d'autonomie, d'agilité dans les actes de la vie quotidienne. Ça s'explore par des échelles particulières, et notamment ici ce qu'on appelle la CDR-SB, Sum of Box, que vous voyez. Et en fait, une des deux études a été positive. Donc pour des milliers, des centaines, des milliers de personnes, on a pu démontrer que l'aducanumab montrait un bénéfice en comparaison du placebo. Vous savez que ce genre d'étude est construite avec un bras, il peut y avoir plusieurs bras actifs, ici en l'occurrence avec différentes doses, peu importe, et un bras placebo en aveugle, c'est-à-dire que ni le médecin, ni le patient, ni la famille, personne ne sait si le patient reçoit la dose active de médicament ou est sous placebo, ce qui permet en toute objectivité de comparer les évolutions de ces échelles cognitives et de ces échelles d'autonomie. Alors, quand vous voyez les courbes, on peut se dire, bon, il y a une petite différence, mais c'est pas terrible. Alors, on peut discuter la taille de cet effet, mais si vous voulez, ce qui est très important, c'est de démontrer pour la première fois que statistiquement, on est assez puissant pour vraiment dire que le médicament est efficace, même si l'effet est encore modeste. Mais on parlera de la taille d'effet un petit peu après. En tout cas, on sait maintenant que si on cible cette protéine, eh bien, j'obtiens des résultats sur la mémoire et sur l'autonomie. Et vous imaginez que ces courbes qui sont divergentes, si on continuait le traitement, peut-être continuerait à diverger et que l'effet, au bout d'années de traitement, pourrait s'amplifier. Ce qui est important, c'est la différence au bout, finalement, en termes d'autonomie et de mémoire. Alors, on a vérifié si on avait la bonne action sur la protéine amyloïde. Alors, vous avez en haut à gauche l'effet en PET scan, en imagerie, vous voyez des exemples d'imagerie à droite, sur l'accumulation, les dépôts de protéines amyloïdes dans le cerveau. La droite grise, qui est stable au cours du temps, au fur et à mesure que l'essai se poursuit, montre que dans le groupe placebo, cette droite grise concerne le groupe placebo, il n'y a pas d'évolution de l'amyloïde. C'est logique, puisqu'on on injecte dans ce groupe-là de l'eau, ou quasiment de l'eau, en tout cas de l'équivalent de quelque chose qui est complètement neutre, sans le médicament. Et quand on injecte vraiment le médicament, vous voyez que l'accumulation de la fameuse protéine amyloïde dans le cerveau va chuter en quelques semaines. Et plus on augmente la dose, c'est la droite rose, eh bien, mieux ça marche. Plus on va débarrasser le cerveau de cette protéine amyloïde. Et donc, vous voyez les images. À gauche, enfin, l'image de la colonne de gauche, ce sont les images au départ, avant le traitement. Et puis à droite, vous avez les images après un an de traitement, sauf dans le groupe placebo en haut, c'est vraiment le groupe contrôle. Vous voyez que dans le groupe contrôle, entre le point de départ et un an, eh bien, il n'y a pas de modification des dépôts amyloïdes qu'on voit ici en jaune et en rouge dans le cerveau. Hein, c'est ça le dépôt amyloïde. On le détecte très tôt dans la maladie, très très tôt. Et puis vous voyez trois exemples de patients qui ont été vraiment traités à des doses différentes. Et là, dans cet exemple-là, pour cet anticorps-là, la dose est importante. Et bien vous voyez qu'on va débarrasser le cerveau en grande majorité de cette fameuse protéine amyloïde anormale qui s'accumule.
Je vous interromps juste une seconde pour dire que s'il y a des questions que vous avez envie de poser à la suite de l'intervention du professeur, vous pouvez les écrire sur des petits papiers qui sont à disposition dans vos programmes. Il suffit ensuite de lever la main et on m'amènera ces petits papiers pour que je puisse être votre interprète autour de ces questions. C'est vrai que ça paraît un petit peu technique, mais ça peut donner effectivement envie de poser des questions et des précisions. Excusez-moi.
Je vous en prie. Alors, autre grande découverte à l'occasion de ces études, c'est qu'en donnant un anticorps contre cette protéine amyloïde, on a eu un effet sur la protéine tau. C'est-à-dire qu'on vérifie cette hypothèse d'une cascade, si vous voulez, au moins entre ces deux protéines. Et là, on le voit encore avec des images un peu compliquées, mais c'est finalement, ce sont des cerveaux dans un groupe placebo et dans un groupe traité. Et bon, je ne peux pas trop vous détailler là, mais ce qu'on vérifie, c'est que vraiment, il y a une diminution des dépôts anormaux de protéines tau, de cette taupathie, vous en avez peut-être entendu parler, alors qu'on a donné un traitement contre l'autre protéine. Donc, vous voyez la cohérence des résultats. Ça, pour nous, c'est vraiment un événement majeur, parce que ça consolide cette hypothèse, ça montre aux chercheurs, aux médecins, à l'ensemble des scientifiques que... cette hypothèse de cette cascade amyloïde est certainement la bonne ou une des bonnes, parce qu'on va parler de multiples cofacteurs qui influencent tout ça. Donc il faut persister dans cette voie. Hein, il faut vraiment persister dans cette voie. Et cet anticorps-là est particulièrement intéressant. L'histoire de ce médicament n'est pas terminée, puisque, comme je vous le disais, c'est la première fois qu'on a un tel résultat. Et l'agence américaine qui s'appelle la FDA, Food and Drug Administration, est en train d'examiner la possibilité que les assurances impliquées dans la santé prennent en charge le remboursement de ce médicament aux États-Unis. Si c'est accepté par la FDA, il y aura automatiquement une soumission du dossier par le laboratoire à l'agence européenne et certainement en France. Vous voyez, il va y avoir là encore une cascade. On attend le résultat de l'analyse du dossier par la FDA dans les semaines qui viennent. Et ce sera vraiment là encore un événement. Alors, on va parler de taille d'effet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la taille d'effet. Les détracteurs de ces approches thérapeutiques, enfin, chaque fois qu'on a des résultats de ce type, on nous dit, mais regardez la taille d'effet, finalement, quelques points d'échelle au bout de 18 mois de traitement, à quoi ça correspond ? En fait, ce qui est intéressant, c'est la stratégie globale. Vraiment la stratégie globale. Et l'élu, tout à l'heure, Madame Delorence, parlait de prévention secondaire, tertiaire. C'est ça qu'on veut proposer. Et on sait que si on propose une stratégie qui va intégrer de l'activité physique, de la nutrition, de la stimulation cognitive, un ensemble, et je vais vous montrer cette cohérence d'ensemble, là, on va obtenir une taille d'effet qui sera individuellement perceptible. On va vraiment pouvoir améliorer la qualité de vie de ces personnes. Alors, je ne peux pas présenter les résultats de l'aducanumab sans ce chapeau global de prévention, mais il faut bien appréhender la prévention de façon globale. C'est-à-dire, la prévention, c'est avant la maladie, mais ça peut être au cours du développement de la maladie. C'est ce qu'on appelle prévention secondaire tertiaire. J'ai la maladie qui est déclarée, et je continue à prévenir les complications, la dégradation, ma perte d'autonomie. C'est ça la prévention, c'est un processus qui est continu. Alors, là encore, je ne vais pas détailler, mais ça, c'est un joli, une jolie revue scientifique qui nous montre que quand on veut préserver la santé de notre cerveau, que ce soit notre réserve de mémoire, notre réserve cognitive, que ce soit empêcher des lésions vasculaires, empêcher l'inflammation du cerveau, eh bien, il y a différentes mesures qui ont montré une efficacité très nette dans la littérature scientifique. Là, il n'y a pas de débat, c'est démontré. Tout ce qui apparaît là, c'est démontré. Au centre, vous avez l'activité physique. C'est pour ça que l'OMS, maintenant, conseille, en recommandation forte, de pratiquer 40-45 minutes de marche un peu soutenue par jour, ou 150 minutes de cardio-training ou équivalent par semaine. Alors, il faut les faire, hein. C'est assez important finalement, mais ça, ça montre une efficacité. Le régime alimentaire, alors pas le régime alimentaire, ce n'est pas un régime, mais l'ambiance de nutrition autour de la Méditerranée, c'est pas mal, hein. C'est les fruits, les légumes du soleil, l'huile d'olive. On peut rajouter quelques petites graines, des noix. Une seule graine n'est pas conseillée, c'est l'arachide, là, les cacahuètes. Mais toutes les autres, finalement, c'est bon pour le cerveau. Ça, cette ambiance d'alimentation est bonne pour le cerveau. Et puis, le lien social. Hein, ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire se bouger, aller voir du monde, écouter des conférences, discuter avec ses amis, aller au cinéma, malgré l'ambiance actuelle, c'est la meilleure stimulation cognitive, c'est la meilleure stimulation mnésique, le langage. C'est beaucoup mieux que de faire des exercices sur un ordinateur. Hein, parce qu'il y a du plaisir, il y a de la motivation, il y a des échanges, il y a de la vitesse d'échange. Tout ça, c'est bien plus efficace que des sudokus sur son cahier, sur sa tablette. L'un n'empêche pas l'autre. Hein, mais, alors voilà les recommandations OMS dont je vous parlais sur l'exercice physique, l'alimentation, sur différentes mesures. Et je crois qu'on parle ici de la surdité. Attention, c'est une autre mesure très importante. Si on pense qu'on devient un petit peu dur de la feuille, il faut faire un bilan, il faut faire une audiométrie, et si possible, s'il y a besoin et si possible, s'appareiller. Parce que l'impact sur la mémoire est très fort, très très fort. Je pense que 9% du risque de troubles de mémoire et d'Alzheimer est dû à une hypoacousie. Parce qu'il n'y a plus de simulation, et parce qu'on se retire finalement de ce fameux lien social. Donc attention à ça. Voilà, je vais conclure là-dessus pour vous dire comment on raisonne avec cet aducanumab, avec tout ce que je vous ai raconté. Nos réserves, que ce soit la cognition, la mémoire, mais que ce soit la marche, l'équilibre, le cœur, la fonction respiratoire, etc., elles déclinent avec le vieillissement. C'est normal, on n'a pas la même performance à 75 ans qu'à 20 ans, normal. Si on a des maladies chroniques, ça décline plus rapidement et on va atteindre des zones de fragilité, c'est-à-dire que c'est un peu instable, et puis carrément des zones de handicap, d'insuffisance de la fonction. Ici, si on passe ce seuil de handicap cognitif, bien on est vraiment en peine tous les jours pour préserver son autonomie dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer. Mais ça peut être une maladie vasculaire, ça peut être une hypertension artérielle très déséquilibrée qui va faire qu'on présente des lésions cérébrales vasculaires. Et puis, ça peut se décompenser brutalement. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre de la cognition, la confusion. Du jour au lendemain, on devient confus. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette pente verte et ces quelques pentes jaunes ou oranges des maladies chroniques qui accélèrent ce déclin? Eh bien, on peut essayer de relever l'ensemble dès la naissance, finalement. On remonte tout ça. Ce qui va faire qu'au bout de la vie, on a moins de risques d'être handicapé à cause de la mémoire. Et ce qui a montré une efficacité, c'est la santé des jeunes mamans, quand elles sont enceintes. Et bien, plus elles sont en bonne santé physique et mentale, et bien plus le fœtus présentera une richesse neuronale et de connexion neuronale importante, et une réserve importante. L'éducation, la stimulation de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, la nutrition, le lien social professionnel, l'activité physique, tout ça, ça a montré un effet sur la réserve cognitive du début de la vie. Hein, vous avez vu que ma droite verte, j'ai tout remonté. Et vous voyez que finalement, on a moins de risques d'atteindre un handicap au bout de la vie. Une autre façon de faire complémentaire, c'est de l'autre côté, c'est de relever la pente de ces maladies chroniques, relever l'impact de ces maladies chroniques, diabète, hypertension, dépression, maladie d'Alzheimer, etc. Et donc, pour relever l'impact de ces maladies chroniques, on retrouve l'activité physique, on retrouve la nutrition et le lien social. Ça, c'est vraiment le pivot, même si les maladies sont déjà déclarées. Et puis, on va rajouter les traitements antihypertenseurs, non, le traitement de l'anxiété et de la dépression. L'anxiété, c'est l'ennemi numéro un de la mémoire, hein, faut le savoir, avant Alzheimer. Hein. Les traitements des facteurs de risque cardiovasculaire, diabète, hypertension, tabac, cholestérol. On va traiter l'ensemble des maladies des personnes qui vieillissent, les problèmes d'audition, les problèmes de ce qu'on appelle la iatrogénie, c'est-à-dire les médicaments qui sont très mauvais pour la santé mentale, les anxiolytiques mal utilisés, les somnifères mal utilisés, certains antipsychotiques ou antidépresseurs mal utilisés. Je dis mal utilisés parce qu'il y a quand même des bonnes indications de ces traitements. Hein. Mais on en mange trop en France, hein, on en consomme trop. Et donc, ça a un impact sur notre cerveau. Tout ça, on peut travailler dessus. Et puis, j'ai mis en vert et en gras les nouveaux traitements. Et c'est ici que l'aducanumab, cet anticorps monoclonal, s'installe. On relève la pente de ces maladies chroniques avec ce type d'anticorps, avec ce type de traitement. Voyez l'approche globale. Et on ne peut pas tirer un de ces éléments de façon isolée. C'est l'ensemble qui aura vraiment un impact sur notre devenir, même si on a déjà déclaré la maladie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie.
Ça veut dire qu'on a... Ça veut dire qu'on a des choses à faire pour... Merci, madame. Ça veut dire qu'on a des choses à faire pour se mettre à l'abri. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que l'éducation est plus généralisée qu'il y a 50 ans, on voit déjà que proportionnellement, à l'âge, on a moins de risques d'être concerné. Ça fait partie des bonnes nouvelles qui sont aujourd'hui admises. Et que ce médicament va venir en plus. C'est vraiment ce que vous dites aujourd'hui. Il ne faut pas espérer une molécule miracle. Il faut vraiment que ça vienne en plus de l'hygiène de vie. Est-ce que ça veut dire que ce médicament vient conforter les hypothèses sur les explications de la maladie ?
Oui, cette fameuse cascade amyloïde, le fait que si on la cible, il y a un impact sur la mémoire et sur l'autonomie, ça nous confère forte dans nos hypothèses. Mais attention, on essaye de ne pas être uniciste, on essaye de ne pas être trop en secteur dans les explications de cette maladie. Il y a certainement des cofacteurs. La pollution peut jouer, les facteurs de risque cardiovasculaire, on en a parlé, le mode de vie. Donc cette cascade, c'est peut-être une espèce de voie finale commune, mais qui va être influencée par plein de cofacteurs. Donc il faut vraiment avoir un esprit un peu large sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer.
Alors, si vous avez des questions et des petites feuilles à me faire parvenir, en fait, vous levez la main et puis nos amis de la Fondation vont venir m'apporter les papiers. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Alors, est-ce que quand on a eu un accident vasculaire cérébral, on est plus à risque ? Ça fait partie des questions que les gens se posent.
Alors, un accident vasculaire cérébral, ça dépend du type d'accident vasculaire, mais il peut diminuer cette réserve cognitive. Hein, vous voyez vraiment cette réserve qui se dégrade un petit peu au cours du temps. Et un accident vasculaire cérébral peut représenter une espèce de marche d'escalier vers le bas. Et finalement, il va contribuer peut-être à révéler une maladie qui se préparait à la révéler un petit peu plus tôt. Hein, donc, on raisonne comme ça en termes d'impact sur la réserve globale. Mais l'AVC, en général, ne provoque pas la maladie d'Alzheimer percée, enfin, en soi.
Et lorsqu'il s'agit d'un accident transitoire sans conséquences majeures, est-ce que c'est moins à risque ?
Oui, alors quand on a eu la chance, entre guillemets, de présenter un accident ischémique transitoire, on va être très, très actif, le patient, son entourage et les médecins, pour éviter que cette AIT se transforme en AVC constitué. Donc c'est le moment d'intervenir. Il faut regarder s'il y a besoin d'un anticoagulant ou d'un antiagrégant. Il faut voir si on a de l'hypertension, s'il n'y a pas une myocardiopathie qui peut envoyer des emboles. Entre guillemets, c'est un peu une chance de présenter un IAIT parce que c'est un signe d'alerte alors qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de paralysie, pas de trouble du langage.
Notre cerveau a besoin d'être oxygéné et la bonne circulation du sang est quelque chose de vraiment important, d'où l'importance de l'activité physique que vous avez vraiment soulignée et que vous encouragez à tout âge.
Tout à fait. Si on met des rats des souris dans une petite roulette, là, vous savez, et qu'on les fait marcher, courir plusieurs heures par jour, une bonne activité physique pour une souris, et qu'on prend un autre groupe de souris à côté où on fait faire que du stretching, que des élongations, que des étirements, et puis ces malheureuses souris, si on leur découpe leur cerveau quelques semaines après le début de l'activité physique, on va se rendre compte que le réseau capillaire, le réseau de petits vaisseaux dans le cerveau est beaucoup plus riche chez les souris qui ont participé à un sport de type cardio-training, à une activité physique tous les jours, par rapport aux souris qui étaient passives, tout simplement avec étirement. Donc en quelques semaines, on a des conséquences sur la richesse capillaire vasculaire du cerveau.
Une question de Nicole qui est très intéressante. Est-ce qu'il y a plus de risques d'avoir la maladie si dans notre famille, il y a une personne qui a été atteinte? Et moi, j'entends une double question. Une question génétique, mais aussi une question d'habitude de vie. Parce que souvent, il y a des familles de sportifs, des familles où on a l'habitude de manger plus ou moins de végétaux, etc., etc. Est-ce qu'il y a une réponse pour Nicole?
Alors, pour la très grande majorité des cas d'Alzheimer, c'est-à-dire 98%, quand il y a un cas d'Alzheimer dans la famille après 75, 80 ans, ce qui représente vraiment la grande majorité, le risque, le sur-risque dans la famille est minime. Il y a un petit sur-risque, hein, si un ou deux cas sont présents dans la famille, mais c'est tellement banal, avec 800 000, 1 million de cas d'Alzheimer ou apparentés, c'est tellement banal d'avoir un parent proche atteint que finalement, on a repéré quand même ce petit sur-risque. Attention aux cas familiaux qui se sont révélés avant 60 ans, avant 60-65 ans. Si dans votre famille, il y a des cas qui sont révélés à 45, 50, 55 ans, là, on est en droit de demander une enquête génétique, en tout cas une information sur le risque familial.
On va revenir tout à l'heure, justement, spécifiquement sur ces cas précoces. Bon, alors, une question importante, mais il faut l'évacuer, celle-là, l'impact du port de masque sur l'oxygénation du cerveau. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, s'il vous plaît ?
Je vous rassure, même si là je l'ai enlevé parce qu'il y a un gros problème du masque, c'est pour les porteurs de lunettes, parce qu'on est dans le brouillard en plus. Mais non, on peut bien respirer, il y a quelques contre-indications relatives pour les gens qui sont très asthmatiques, très insuffisants respiratoires.
Mais en termes d'oxygénation, il n'y a pas de souci. Ça a été vérifié, non, mais il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est une inquiétude. Il y a eu des saturations mesurées, effectivement, même en le portant longtemps. Sinon, les infirmières, elles seraient toutes...
Ça a été vérifié. Il y a simplement, quand on pratiquait du sport intensif avec un masque, là, ça devient compliqué. Mais ça a été bien dit.
Comment est-ce qu'on explique la recrudescence des patients jeunes? Est-ce que c'est un phénomène génétique dont vous y avez en partie répondu? Est-ce qu'il y a vraiment une recrudescence des patients jeunes?
Non, il n'y a pas de recrudescence des patients jeunes. Il n'y a pas de phénomène épidémique des patients jeunes. Simplement, on les repère mieux qu'avant. Avant, on pouvait classer ça comme des démences. On ne savait pas trop ce que c'était. Même si Aloïs Alzheimer avait décrit une patiente jeune au départ. Mais finalement, beaucoup échappaient. Surtout les enquêtes génétiques échappaient. Maintenant, on les repère mieux, heureusement, parce qu'il y a des mesures de prévention dans la famille. Il y a du conseil pour la gestation, enfin Virginie en parlera, pour prévoir des enfants, et puis il y a parfois des essais thérapeutiques.
Alors une question assez technique, mais je vois qu'il y a des personnes très passionnées par le côté très technique. Est-ce que les amyloïdes sont comme des destructeurs? Est-ce que c'est des personnes qui je vous laisse répondre.
La protéine amyloïde, elle est physiologique, on en a besoin. C'est une protéine transmembranaire qui est utile, mais si elle s'accumule, surtout dans une forme un peu modifiée, eh bien, elle va étouffer le neurone. Elle s'accumule autour du neurone. Le neurone n'a plus assez d'oxygène, plus assez de bon métabolisme et il va mourir.
Une question qui concerne un autre traitement que celui dont vous avez parlé, qui est l'Ariceps. Il a été déremboursé. Est-ce que, à ce jour, il peut vraiment aider et soulager les personnes? Une étude assez intéressante de Prescrire qui est sortie la semaine dernière qui a constaté que la maladie n'avait pas plus avancé chez les personnes depuis le déremboursement de ce médicament. Est-ce que ça veut dire que les patients ont continué à aller visiter leur médecin et continuent à avoir une bonne prise en charge, qui était une des inquiétudes des équipes médicales?
Donc, notre fédération, la Fédération des Centres Mémoire, la Société française de neurologie, de psychiatrie, de gériatrie, France Alzheimer, la Société française de neuropsychologie, tous ces gens, ces scientifiques qui connaissent la maladie, et on pourrait rajouter les instances internationales, le NICE au Royaume-Uni, l'Association américaine contre la maladie d'Alzheimer, les grandes revues internationales disent que ces médicaments apportent une certaine efficacité. Donc l'efficacité scientifique est démontrée. Ce qui a été discuté et qu'on a combattu ici en France, c'est la taille de l'effet. Ce que je vous ai montré tout à l'heure pour l'aducanumab. Les politiques ont dit, la haute autorité ont dit, la taille de l'effet n'est pas assez importante pour qu'on rembourse le médicament. Nous, on n'avait pas ce discours. On a dit, c'est démontré. Et c'est une pierre à l'édifice thérapeutique. Et on ne veut pas priver nos patients de cette pierre à un édifice thérapeutique qui est complexe, qui va comprendre des aides à domicile, qui va comprendre de la remédiation cognitive, qui va comprendre de l'activité physique. Et ne considérez pas la taille de l'effet isolément, alors que le produit a montré une petite efficacité significative au niveau statistique. Voilà, c'est ça qu'on a expliqué. Et donc moi, mes patients personnellement et nombreux neurologues, gériatres défendent ça. S'ils peuvent se le permettre, parce que maintenant c'est les familles et les patients qui payent, hein, eh bien, s'ils peuvent se le permettre et que l'indication est bien considérée, on recommande de continuer ces traitements.
Quel est le coût par mois de ce médicament ?
Alors ça va de 12-15 euros au plus cher, 60 euros.
Parlons du coût du médicament que vous nous avez présenté. Est-ce que ce sera un médicament cher ? Est-ce qu'on sait déjà répondre à cette question ?
Ce sera certainement plus cher que ça. Et là, il va y avoir des études d'efficacité, d'efficience médico-économique. C'est-à-dire qu'on va essayer de démontrer que les points d'autonomie qui sont préservés par ce type de médicament, en fait, permettent d'économiser de l'argent. Hein. S'il y a de l'autonomie qui est préservée sur le territoire français pour des milliers de personnes, ben c'est moins d'aide à domicile. Et donc ça, c'est de l'argent
économisé
qui pourrait permettre à la société de s'offrir ce médicament. C'est ce qu'on appelle la pertinence médico-économique de ces thérapeutiques.
Quels sont les modes de diagnostic qui existent actuellement afin de diagnostiquer le plus vite possible la personne et de lui proposer les soins adaptés ?
La stratégie diagnostique, elle est graduée et personnalisée. C'est un faisceau d'arguments qui va nous permettre de montrer le diagnostic. Quand je dis gradué, c'est que ça commence avec le médecin généraliste. Il faut signaler une perte de mémoire qui n'est pas normale, qui n'est pas habituelle, qui n'est pas due à de l'anxiété, qui n'est pas due à un problème de concentration, qui alerte, qui inquiète l'entourage. Il faut d'abord le signaler au médecin traitant. Il faut convaincre le médecin traitant, parfois, d'adresser le patient en consultation mémoire. Et là, on va commencer à rassembler tout un faisceau d'arguments, consultation médicale, bilan neuropsychologique, l'IRM, une prise de sang, et parfois, s'il faut aller plus loin, on dosera des biomarqueurs, il faudra peut-être une ponction lombaire, il faudra peut-être une imagerie plus sophistiquée, mais on va personnaliser la démarche diagnostique en fonction de la présentation du patient.
Alors, il faut savoir de quoi on parle. Sylvie me demande, j'ai mis 3 jours à retrouver le prénom d'un acteur de cinéma. Est-ce le début d'un Alzheimer ? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ou bien de toute autre chose, professeur ?
Ça m'arrive souvent, ça.
Ça nous rassure.
Non, c'est pas du tout un signe précurseur ou annonciateur de maladie d'Alzheimer, mais ça peut faire partie des symptômes. Mais il y aura d'autres oublis chez quelqu'un qui débute une maladie d'Alzheimer. Des oublis beaucoup plus inquiétants pour l'entourage. Oublier le dernier repas de famille alors qu'il date de quelques jours ou quelques semaines. Alors que pour quelqu'un qui est retraité, qui a des petits-enfants, c'est important un repas de famille. Oublier le dernier petit voyage et ne plus avoir du tout de souvenirs malgré des petits indices. C'est ce genre d'oubli, vous voyez, beaucoup plus saillant, beaucoup plus prégnant que changer de pièce, je ne sais plus ce que je venais y chercher, avoir un nom de quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien sur le bout de la langue, perdre ses lunettes toute la journée, ça c'est de l'attention.
Dernière question, l'huile essentielle de romarin aurait de bons résultats sur la maladie, il faudrait la respirer quelques minutes par jour, vrai, faux, chacun fait comme il sent.
Tant qu'on est dans ce genre d'approche, moi je ne serais pas assez armé pour dire qu'on ne démontrera pas un jour vraiment scientifiquement l'impact de ce genre d'approche, surtout si c'est naturel. Si ça n'a pas d'effet délétère sur la santé et si ça ne coûte pas trop au consommateur ou au patient. Donc, moi, quand on me dit j'ai l'impression que ça me fait du bien, que ça m'aide à m'endormir, pourquoi pas? Je dis allez-y, je vérifie que ce ne soit pas délétère pour le patient, que ça ne lui coûte pas trop d'argent, parce que si ça lui coûte beaucoup d'argent, je pense à tous ces compléments alimentaires, je leur conseille souvent d'aller plutôt sur un marché bio et de faire un bon panier de fruits et légumes de bonne qualité pour bien nourrir son cerveau.
Un grand merci pour toutes ces indications et tout l'espoir que vous soulevez aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir et à laisser la